Radio Foot International, Annie Gasnier.
Rosia Dobridien, bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International. Vous en avez pris l'habitude, spéciale Coupe du Monde en ces temps de compétition mondiale en Russie, du côté donc de l'Est de l'Europe. Dans ce pays, la Russie, où c'est le soulagement pour la sélection et sans doute pour un pays tout entier supporter de l'autre côté de l'Atlantique. Le Brésil vient de remporter une première victoire en Russie contre le Costa Rica 2-0. Et les Brésiliens se replacent dans leur groupe E. Si les Brésiliens étaient encore assez peu flamboyants, leur jeu semble reposer plus sur Felipe Coutinho que sur Neymar, les deux buteurs de cet après-midi. Coutinho est-il le vrai patron de cette équipe? Eh bien, nous en parlerons. Nous parlerons aussi de ces larmes de Neymar à la fin de la partie. Un fait de jeu inédit aussi dans ce match. L'arbitre s'est déjugé, retirant aux Brésiliens le pénalty qu'il venait de leur accorder après avoir regardé son écran de contrôle vidéo. Serbie-Suisse, une rencontre essentielle pour ces deux équipes. Les Serbes pour confirmer après leur victoire contre le Costa Rica, la Suisse pour poursuivre l'aventure après le match nul face au Brésil. Deux sélections fortement marquées par l'ancienne Yougoslavie. Les Super Eagles face aux hommes de Reykjavik, Nigeria-Islande, retransmis tout à l'heure sur RFI. Et une nouvelle occasion pour une équipe africaine de rester en Russie, de prolonger le séjour à condition de l'emporter. Mais les joueurs de Guernot Rohr vont devoir sortir leur grand jeu. Et invité dans ce studio, eh bien, un homme qui revient de la Russie. Bonjour Habib Bey.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ça valait le coup ce petit aller-retour?
C'était très très bien et cette Coupe du Monde est magnifiquement bien organisée par la Russie, je peux vous le garantir.
Oui, ça on n'en doute pas, enfin c'est ce qu'on envoie et c'est ce que nous rapportent les envoyés spéciaux de la radio. Chérif Guémour, bonjour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Notre camarade de SoFoot qui jette un œil particulier sur ce Brésil justement. Et puis Franck Simon, bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à
Franck
tous.
Franck avec sa chemise africaine, mais je suis sûr qu'il regarde
ivoirienne.
Tout le monde. Et ivoirienne, mince, ouais. Il joue pas en Russie, c'est pour être neutre.
C'est un petit clin d'œil, exactement, je suis neutre.
Je sais bien, école Philippe Zigraf, Radio Foot, c'est parti.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Les supporters des Aori Verde, ça c'était juste avant le match, mais pendant le match, quand il y a eu les buts du Brésil, eh bien, ils se sont mis à chanter et à danser dans les rues, les rangs du stade de Russie, parce que c'était un ouf de soulagement finalement dans les rangs. Le sélectionneur, on l'a vu se rouler sur la pelouse malgré son élégant costume, et il y a eu deux buts dans les arrêts de jeu. Le Brésil a sauvé son premier tour pour l'instant dans cette compétition grâce à deux buts donc inscrits par Felipe Coutinho et Neymar. C'était face au Costa Rica. Une victoire ric-rac contre le Costa Rica, Chérif Guémour.
Non, mais une victoire quand même déjà, parce que c'est pas facile. On a vu la France hier qui a eu beaucoup de difficultés à battre le Pérou. Une victoire, c'est une victoire. Ils ont tout fait, les Brésiliens. Et on peut les féliciter d'y avoir cru. On peut souligner le très bon coaching de Tite, qui n'a pas hésité à jouer à 4 attaquants, en une sorte de 4-1-4-1, en faisant rentrer d'abord Firmino, d'abord Douglas Costa, pardon, en plus
Firmino.
Ça a été des choix payants. Et voilà, la petite note quand même un peu négative de ce Brésil, c'est ce manque d'efficacité et un peu cette indolence qu'on avait déjà commencé à remarquer dans les matchs amicaux d'avant contre l'Autriche, contre la Croatie, un petit peu contre la Suisse. C'est-à-dire le fait de se présenter, se dire on est le Brésil, ça va aller tout seul. Non, on est en Coupe du Monde, ça va jamais tout seul et c'est difficile pour tout le monde. Et le Brésil n'y échappe pas.
Habib, comment vous est apparue la sélection?
Un manque d'efficacité, mais lorsque vous avez plus de 22 tirs, c'est déjà une très très bonne chose, parce que je pense que c'est aussi une question de confiance. Un premier tour de Coupe du Monde, c'est très difficile, c'est déjà un petit peu plus long que l'Euro, vous avez quand même un huitième de finale à jouer. J'ai l'impression que les équipes sont un petit peu plus fermées dans cette compétition pour l'instant. Et les équipes défendent bien, c'est ce que je disais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une Coupe du Monde un petit peu défensive, mais il y a des influences aujourd'hui en Europe qui aujourd'hui donnent aussi des idées à tous ces sélectionneurs. Je pense à lorsque vous regardez hier l'Espagne qui ne bat l'Iran que 1-0 et qui a été en difficulté, on voit hier l'équipe de France qui défend, on voit des équipes qui défendent très très bien. Moi je pense à des équipes comme l'Atlético qui aujourd'hui, comme Diego Simeone, et ben comme on copie Guardiola, ben on va aussi copier Diego Simeone. Quand je regarde l'Islande, c'est un système où on voit des fois une défense à 6 alignée avec les joueurs excentrés offensifs qui défendent presque alignés sur leur défense.
Oui, mais Habib, il y a bien défendre et tenter des choses. Tu vois, par exemple,
Tu fais avec tes moyens. Moi, j'entends aujourd'hui qu'on me dit que l'Islande, ça joue pas. Oui, aujourd'hui,
je parle pas l'Islande, le Costa Rica. Regarde le Costa Rica, il arrive, ils ont déjà perdu.
Ah mais tu joues le Brésil, tu joues contre Neymar, tu joues contre Coutinho, contre Firmino.
Au bout de 20 minutes, tu as une action dangereuse. Tente un petit quelque chose en plus, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai vu l'Iran contre l'Espagne, ils tentent quelque chose, tu vois ce que je veux dire. À 0-0 ils tentent, ils sont menés 1-0, ils tentent. À Costa Rica, alors que bon, ils ont quelques occasions, tu vois, ils déploient par moment, c'est un jeu de passe intéressant, mais vous avez bien défendu les gars, mais à l'arrivée vous êtes punis, vous avez deux défaites,
t'es puni, c'est vrai, mais il y a des équipes qui ont bien défendu comme l'Islande et qui n'ont pas perdu.
Je parle pas
moi j'ai regardé par exemple l'Arabie Saoudite contre la Russie, c'était journée porte ouverte, c'est-à-dire qu'on a vu l'Arabie Saoudite, ça joue bien au football, c'est technique, mais au final ils en prennent 5, donc il y a pas d'organisation. Quand je vois par exemple le Maroc d'Hervé Renard sur la première période contre le Portugal, c'est bien, il y a de l'allant, ça court partout, mais c'est aussi désorganisé. Donc à partir de là, il y a des choses
qui c'est au-dessus quand même, Habib, ils se font 8 de finale il y a 4 ans.
Et au-dessus, moi je trouve qu'ils ont un très grand gardien. Si demain t'as pas Keylor Navas dans cette équipe, d'accord. Je pense que tu en prends 3, 4, 5 et tu rentres très très vite à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu un très très grand Keylor Navas face aux Brésiliens. Moi je pars du principe que si je suis entraîneur et que mon équipe se procure 22 tirs et que même si elle a été en difficulté, elle gagne 2-0 au bout de cette rencontre, je suis assez confiant pour la suite parce que au moins se procurer des occasions, c'est une marque également de qualité technique là-dessus. Pour aller jusqu'au bout des
actions. Je t'en rejoins parfaitement.
Franck, comment avez-vous assisté à cette victoire, mais victoire à l'arraché? Alors, il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, mais on explique aussi que les Costaricains ont quand même bien tiré sur la corde pour essayer d'obtenir le nul.
Alors, j'ai assisté aux 89 premières minutes, donc j'ai pas vu les buts. C'est en arrivant en studio que je les ai vus. Je les ai entendus effectivement sur la route. J'ai entendu quelques clameurs sur les quais de Seine, c'est vrai que c'était un match. C'est un match à sens unique. De toute façon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on en sait en fait aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'a décidé Oscar Ramírez, le sélectionneur costaricien? Peut-être que c'était son plan, effectivement, de s'appuyer sur ce bloc bas, comme il l'a fait. Peut-être que pour lui, son équipe, elle n'était pas capable de mieux. Peut-être que son plan, c'était d'aller gratter un point pour peut-être derrière accrocher quelque chose de plus important à la troisième journée. On ne sait pas. Donc, effectivement, après, c'est déséquilibré. Il y a une équipe qui a passé son temps à défendre, essentiellement en deuxième mi-temps où ils n'ont pas vu le jour. Et dans le temps additionnel, c'était pire. Et puis, un Brésil qui est au-dessus de l'eau techniquement, tactiquement, qui a des inégalités où il n'y a pas grand monde qui peut le gêner, en fait, aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a rien de, si vous voulez, il n'y a pas de surprise. La surprise, ça aurait été qu'il est nul jusqu'au bout. Et c'est vrai, comme le disait Habib, voilà, il y a un Keylor Navas exceptionnel aujourd'hui.
Oui. Keylor Navas exceptionnel.
Même s'il en prend un entre les jambes, je crois que c'est sur la frappe de
Coutinho. Pratiquement à vous portant.
Mais pourquoi, de la part des Brésiliens, ce manque d'efficacité? Est-ce que c'est simplement de la maladresse, de la tension aussi? Parce qu'on savait qu'après le match d'entrée contre la Suisse, il y avait une énorme cobrança, comme on dirait en portugais. C'est-à-dire, on exigeait beaucoup de cette sélection, beaucoup de critiques même au pays, notamment contre Neymar.
Mais l'ennemi de l'attaquant, je pense qu'on l'a tous vu, c'est justement c'est le doute et l'excitation. C'est vrai que quand on est dans un premier tour du Coupe du Monde, que vous êtes attendu par toute votre nation, que vous avez le poids d'un pays comme ça, mais le Brésil est habitué. Mais malgré tout, on a quand même aujourd'hui un renouveau brésilien avec Tite, et donc il y a encore plus de pression sur ce Brésil. Il y a eu une déception, on l'a dit, au Mondial du Brésil, et aujourd'hui ce Brésil doit briller. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc cette excitation fait aussi peut-être qu'il y a un manque d'efficacité, mais moi ça m'inquiète pas pour le moment pour les Brésiliens.
Non, il y a un excès de suffisance. Mais alors, par contre, c'est vrai, votre réflexion de départ.
Un excès de suffisance des Brésiliens?
Alors, d'abord, c'est vrai que cette efficacité, elle interroge. J'ai pas dit elle inquiète. Elle interroge dans le sens où c'est vrai que lors des éliminatoires, ils ont fini avec un paquet de buts, largement.
Oui.
Et sur ce qu'on a vu après dans les matchs amicaux, il y avait vraiment
une baisse de régime.
Non, mais il y avait aussi beaucoup de buts. Maintenant, c'est voilà, ça interpelle plus que ça n'inquiète. Mais voilà, moi je serais assez d'accord avec avec Habib. Il y a une tension, il y a une fébrilité. Bon, on a vu les larmes à la fin de Neymar, voilà.
Ouais, ouais, il était tout seul près du rond central en train de pleurer comme un gamin. C'était le stress, c'était oui, le stress, aussi toute ouais, cette pression.
Il est en train de
on critique tout hein, voilà, ses voilà, cheveux,
c'est voilà, il est en train il mm-hmm. y a du relâchement à la fin Mais bon, quand même, il y a cette suffisance. Moi, j'insiste là-dessus. Il y a un peu d'indolence. On l'a vu contre la Suisse. Il s'arrête de jouer. Je l'ai vu aussi dans les matchs amicaux. Il suffit qu'il marque un but pour attendre le dernier quart d'heure pour faire le break. Là, on est en Coupe du Monde. Bon, ok, c'est que le Costa Rica. Je suis d'accord avec vous. Contre la Suisse, ils ont été vraiment remis dans les rails. C'est pas gagné. Voilà, ce que je veux dire, c'est que contre la Serbie, c'est pas gagné. S'il y a cette indolence, c'est de se dire bon, de toute façon, contre la Serbie, on fait match nul, on passe, on gagne, on passe. Non, ça va pas se passer comme
mais
ça.
Si tu analyses le contenu, par exemple, on peut faire une petite comparaison avec l'équipe de
Il
France.
Il est bon le contenu.
Lorsque tu vois la deuxième mi-temps de l'équipe de France face au Pérou, ouais. Quand tu vois le peu d'occasions que se procurent les Français, moi, si demain je suis sélectionneur français, je me dis, je suis content parce que j'ai gagné et je suis qualifié pour les huitièmes. Par contre, je remets en question mon animation offensive de me dire, si demain je rencontre un gros, c'est-à-dire un très très gros de cette Coupe du Monde. Et je me procure aussi peu d'occasions, je serais inquiet. Là, si je suis tité, je me dis bon, ok, mes gars, ils ont manqué un petit peu devant le but, mais 22 tirs, 22 occasions, dans un autre match, avec un petit peu plus de relâchement et un petit peu plus de confiance, je pense que ce Brésil peut mettre une gifle à n'importe qui. Encore une fois, je te dis, c'est, comme tu le dis, c'est inquiétant de par leur suffisance, mais ça, c'est tout à fait brésilien et c'est la nouvelle génération de ces Brésiliens qui est un petit peu comme ça. Mais moi, je suis très content de voir le Brésil aujourd'hui tirer 22 fois au but.
Ah, mais ça,
ils
on l'a
tombé
dit,
face
oui.
à Keylor Navas, qui était
d'accord.
un grand gardien.
Non,
peut-être que ce ne sera pas toujours Keylor Navas dans le but un grand gardien.
On a visionné le match cet après-midi. Les occasions de but, on les a comptabilisées.
Les larmes brésiliennes, on commence à s'habituer hein, depuis 4 ans. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est des larmes de soulagement, tout simplement. Parce que vous le disiez tous autour de la table. Et ils se font critiquer à tout moment de la journée et de la nuit.
Eux, ils ont 200 millions de sélectionneurs
ouais,
au pays.
Mais on va pas non plus, on va pas écraser une larme pour ce Brésil qui est si supérieur aux trois quarts des formations qui sont dans cette Coupe du Monde. Ils ont les occasions. Habib l'a dit, ils ont les occasions. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils savent qu'ils peuvent marquer. À tout moment, mais il faut
mais
le faire.
Mais ça venait pas. Oui.
Et ça venait pas parce que aussi en face, t'as ce bloc qui est très très bas, qui défendait plutôt bien, et puis t'as un gardien qui est pas n'importe qui. Voilà, donc ah oui. contre et ça va être de plus en plus.
Il était
compliqué.
Déjà très bon en 2014. Keylor Navas, c'est ainsi que le Real va finir par le remarquer,
si
le recruter.
Si on fait une comparaison entre Keylor Navas et Caballero, par exemple, hier, on voit la différence.
Tu changes les gardiens, c'est pas la même.
Bah, exactement. Tu mets Keylor Navas dans le but de l'Argentine. Alors sûrement, peut-être que la Croatie gagne parce que l'Argentine a été en difficulté, mais c'est peut-être pas le même score non plus.
Ah bah ouais, oui, c'est vrai. Il y avait au moins deux buts pour le.
Puis un grand Coutinho quand même. Hein. Alors vous dites Felipe, mais j'ai lu que c'était Philippe.
C'est Felipe. Oui, parce que il y a pas de e en portugais.
C'est Felipe à l'espagnol ou Philippe?
Philippe.
Ah, Philippe
c'est
à la française,
mais ça se dit, voilà, exactement. D'accord. Ça s'orthographie, en tout cas.
Bah, on a eu un grand Philippe Coutinho, enfin, je trouve.
Eh ben, tiens, voilà. la question suivante, Franck, c'est.
Dites-moi tout.
Est-ce que, finalement, on attend Neymar, et c'est Neymar parce que c'est la star, parce qu'on n'arrête pas de répéter aussi que c'est l'homme qui vaut
il
le
se la
plus
met tout
cher?
Seul, l'impression, Annie, hein.
Oui, il se la met,
gagner,
puis on lui met.
Il
s'arrête pour ça, il se fait remarquer par
voilà.
ses tenues. Mais est-ce que finalement l'homme dans cette équipe du Brésil, celui qui porte l'équipe, c'est pas Coutinho justement?
Bah, en tout cas, je trouve qu'il endosse bien la panoplie, enfin le costard du
sauveur.
C'est lui qui marque le but libérateur contre la Suisse, et puis là, il marque le premier but.
Il y a d'autres joueurs qui sont tout aussi intéressants. Je dirais pas l'organisme.
Non, mais comme on dit, le Brésil de Neymar. Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est le Brésil de Coutinho.
Je trouve que pour l'instant, pour les deux premiers matchs, c'est plutôt lui parce qu'il a marqué, parce qu'il est influent, parce que
il s'entend bien avec Firmino. On l'a très bien vu sur un but.
Une bonne liaison, voilà, technique. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent, enfin, Tite peut compter sur d'autres types. En attendant que Neymar grimpe en volume, quoi.
Coutinho est vraiment vraiment intéressant, c'est-à-dire il fait le lien entre Marcelo et Neymar. Ils jouent tous les deux sur le flanc gauche et lui il défend. C'est là qu'il est intéressant parce qu'il y a ce qu'il fait de beau devant, le magnifique but, les deux d'ailleurs. Premier match, deuxième match, lui il défend. Ça c'est le travail
individuel. Il y a une élégance aussi qui est voilà.
Il est différent des autres. Oui, c'est pas un joueur de percussion. Coutinho, c'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon, dribbler 5 mètres comme
finesse,
le fait Neymar.
Voilà.
C'est quelqu'un qui rentre à l'intérieur, qui cherche des zones de frappe, des zones de passe que personne ne peut trouver. Et moi, encore une fois, si j'étais Tite, je serais très confiant parce que je me dis Neymar est un petit peu en dessous, mais il était un petit peu en dessous parce qu'il a pas joué depuis 4-5 mois.
Il manque de rythme.
Donc c'est tout à fait logique. Et en plus, dans le processus, on se dit, cette phase de poule peut permettre à Neymar de jouer 3 fois 90 minutes et d'arriver en 8e de finale ou après en quart de finale avec justement un bagage physique un petit peu plus important. Donc
c'est
vous allez garder Coutinho.
C'est ce qui a été prévu.
Un très très bon niveau et ensuite Neymar va lui élever son niveau de jeu. Donc ça c'est pour moi c'est tout à son avantage pour le Brésilien.
Mais alors mais c'est bien mais oui on revient sur c'est bien que Coutinho soit là absolument. C'est oui. C'est parce qu'habituellement Tite le faisait jouer à droite de l'attaque à la place de Willian. Il l'a remis au milieu de terrain. Et bon, à mon avis, ça déséquilibre au niveau du côté droit, côté gauche, mais ça, c'est autre chose. Mais une fois de plus, il y a ce qui fait devant, en relais avec avec Neymar, enfin avec Marcelo. Mais il y a aussi le travail invisible. Celui-là, on voit pas parce que des fois, on a l'impression qu'il disparaît du match. Non, il disparaît pas. Il recule et lui, il défend. J'allais même dire, il y a que lui qui défend son côté gauche.
En possession, il a une qualité au niveau de la passe qui est exceptionnelle. Hein. Ça, c'est un atout supplémentaire pour eux. Et... bah tant mieux.
Bah c'est pour ça que Tite à mon avis l'a remis au milieu de terrain à la place de Renato Augusto. C'est aussi pour ça. C'est voilà, je soutiens Neymar en attendant, comme disait Habib,
la montée en puissance.
Top, voilà, la montée en puissance. Mais qui a été prévu par les médecins de la Seleção.
Mais Habib, alors on dit, on essaye de trouver peut-être un peu le patron dans cette équipe, même si la star peut être Neymar. Mais le Brésil, c'est pas non plus, par exemple, l'Argentine de Messi ou d'autres équipes comme ça qu'on assimile le Portugal de Cristiano. Il y a quand même peut-être une pléiade de joueurs plus importantes.
Il y a un effectif très fort, très riche. Lorsque je vois le niveau de Thiago Silva sur cette Coupe du Monde, c'est redevenu un niveau du Thiago Silva qu'on a aimé par les années passées.
Et il était capitaine
beaucoup
aujourd'hui.
Beaucoup d'autorité,
hein.
Avec également Miranda derrière.
Plus que Miranda.
Ouais, un petit peu plus que Miranda. Marcelo, pour moi, est le vrai patron de cette équipe, même si on peut lui trouver des lacunes sur le plan défensif.
Casemiro me déçoit un peu.
Je trouve, ouais, c'est vrai qu'il est moins en
vue.
Par
rapport au Real où il oriente le jeu et tout ça et tout, le jeu.
En même temps, il a tellement de joueurs de foot à côté qu'il se contente, lui, de gratter les ballons. Moi, j'adore Marcelo. On peut dire ce qu'on veut sur ce joueur-là. Il y a rarement de déception, il y a des petites lacunes défensives, mais ce joueur est juste
exceptionnel. Tu vois pourquoi il y a Coutinho qui bloque le couloir quand les deux ils partent à l'abordage, Marcelo.
C'est toute l'intelligence de ce joueur.
Voilà. Et de ce sélectionneur aussi qui a su trouver l'amalgame entre justement ces joueurs très techniques et ces joueurs qui travaillent. On oublie aujourd'hui Paulinho. Tout le monde dit oui, c'est pas un grand joueur. C'est vrai quand il est parti au Barça, 40 millions, tous les gens ont dit. Mais son rôle aujourd'hui, c'est pas ça. Et je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre les Paulinho, Casemiro, Miranda, Thiago Silva, qui sont des vrais joueurs d'effectifs, qui sont là pour aussi tout donner. Et après tous ces joueurs techniques qui égayent un petit peu le football brésilien. Donc ça, je trouve que Tite l'a trouvé depuis un moment maintenant.
Franck.
Parce qu'on évoquait il y a quelques minutes, enfin vous l'évoquiez, cette Argentine, ça n'a rien à voir. C'est des dynamiques tout à fait différentes. Hein. L'Argentine, ils sont en crise depuis déjà pas mal de mois. Le Brésil, on peut pas dire qu'ils soient en crise ces derniers mois. Ils sont qualifiés avant tout le monde. Ils ont déroulé la fin des éliminatoires. Donc ils sont dans cette, je pense, dans cette continuité de la gestion des adversaires aussi, de la forme de certains joueurs importants. Leur gardien a pas vraiment été testé en réalité.
Non, pas encore.
Voilà, ils n'ont aucune raison de craindre l'avenir proche, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine.
Bémol, le côté droit, toujours.
Mais vous les voyez continuer dans la compétition, eux qui font partie des favoris, voire des grands favoris, vous les voyez aller loin?
Ben, ils font partie des grands favoris et pour l'instant, je trouve qu'ils, hormis ce petit accroc contre les Suisses, mais qui n'était pas si inquiétant que ça, ils font le travail. Enfin, ils vont terminer, je pense, très fort ce premier tour. Et après, dans les matchs couperets, ils ont la capacité de sortir bien du monde.
Habib?
Ouais, moi je les vois dans le dernier carré.
Vous aussi?
Je les vois dans le dernier carré parce que dans un premier tour, les équipes qui sont pas encore au top ne m'inquiètent pas. Et je fais toujours ce rapport, par exemple, au Real de Madrid. Le Real Madrid aujourd'hui, Madrid, parce qu'on dit pas de Madrid, sinon à chaque fois je me fais reprendre sur les réseaux sociaux.
Bah, avant on disait comme ça, il y a une évolution dans le vocabulaire.
Le Real Madrid sportif. Cette saison n'a pas été exceptionnel dans les phases de poule et je trouve que c'est ces équipes-là qui montent en puissance au fil de la compétition. J'ai l'impression que ce Brésil est aussi dans cet aspect-là. On va avoir d'autres nations, peut-être que l'Allemagne va réagir. La France va monter aussi en puissance, mais je trouve que c'est une bonne indication déjà de voir que les équipes sont bien organisées, parce que le Brésil, lorsqu'on les regarde, à part sur le côté gauche où Marcelo parfois dézone un petit peu, mais je les trouve bien organisées, je les trouve pas non plus en grande difficulté sur le plan défensif, par exemple à l'Argentine qu'on a pu voir hier aux abois. Donc ça, pour moi, c'est un bon signe pour le Brésil.
Chérif.
Non, pareil.
Vous qui les suivez à la loupe.
Oui, pareil. Après, qui aime bien châtie bien. Faut soulever les insuffisances. Moi, par exemple, il y a Casemiro qui me déçoit un peu par rapport à ce qu'il a fait avec la Seleção, puis par rapport à ce qu'il faut au Real, c'est-à-dire un petit peu plus haut quand même, bien organisé, bien orienté le jeu. Là, moi, je le trouve un peu timide, un peu un petit peu en dedans et qui colle vraiment à ses quatre défenseurs derrière, et le côté droit Fagner, c'est l'une des premières fois qu'on le voyait, même s'il avait déjà quelques sélections. Latéral droit, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas Dani Alves. Et puis il y a Willian qui a du mal à rentrer dans cette Coupe du Monde. Mais bon, à côté de ça, Habib va nous dire que tu fais rentrer Douglas Costa à la place,
ouais, non,
et
mais
le mec
plus,
qui fait du grabuge.
J'ai l'impression que Willian rencontre le même problème que Dembélé en équipe de France, c'est-à-dire comme c'est un joueur d'intérieur, c'est pas un joueur de débordement.
Mais je suis d'accord.
Il vient
s'écraser
sur les Coutinho, voilà, ouais. Il vient s'écraser sur Gabriel Jesus qui décroche.
Ouais, ouais.
C'est un petit peu ce problème-là, alors que Douglas Costa, lui,
c'est un vrai joueur de couloir.
C'est un joueur qui est capable d'enchaîner sur les couloirs, de rentrer à l'intérieur. Et je trouve que t'as parlé des changements de Tite. C'est un changement judicieux de mettre Douglas Costa.
Et il a pas attendu. C'est ça qui est bien aujourd'hui.
Le Brésil se procure beaucoup plus d'occasions en seconde période qu'en première période. Et c'est une fois que Douglas Costa est rentré aussi.
Très bon coaching de Tite. Tite en général, il attend l'heure de jeu pour commencer à faire ses changements. Le premier, le deuxième, le troisième, je vois au 87. Là, tout de suite à la mi-temps, il a pas.
Il avait déjà pas été bon contre la Suisse, hein, Willian.
Ouais. Et quand même, c'était très important là de marquer les esprits. Et puis il y a eu dans ce match un fait de jeu.
Oh.
Avec l'accent brésilien, avec l'accent de Jorge Benjor pour évoquer ce penalty. Alors, penalty ou pas, on a vu une scène assez intéressante dans ce mondial qui s'est lancé dans la vidéo.
Apocalyptique, pas intéressant.
Assistance. Oh. On va voir les avis partagés. Mais j'étais avec vous pour voir le match, j'ai bien vu. Commentons cela. Donc, il y a un moment, Neymar tombe dans la surface de réparation, apparemment mis par terre par un adversaire du Costa Rica. L'arbitre désigne le point de pénalty, et puis tout d'un coup on le voit courir vers son écran. Alors on sait qu'il a des oreillettes et qu'on a dû lui dire va vérifier, et revient, il dit il n'y a pas pénalty. Il se déjuge lui-même, c'est ça l'arbitrage vidéo aujourd'hui, chérie ?
Le juge se déjuge et l'arbitre perd son libre arbitre. Parce que maintenant, il est plus serein. Il prend une décision. Avant, elle lui appartenait en son âme et conscience. Il y avait l'autorité de la chose jugée. Il jugeait en son âme et conscience. Peu importe, il peut se tromper, mais l'arbitre fait partie du jeu. Et là, maintenant, à chaque action, parce que le pire, c'est que ça ne fait que commencer. Donc maintenant, vous avez vu les joueurs, écran, ils réclament tous, même quand on les pousse un peu sur un coin de la touche. Donc on en est là. L'arbitre,
t'es en Coupe du Monde, hein, c'est pas un match de district non plus, tu vois. Donc à un moment donné, c'est aussi important, quoi.
Il retourne à l'écran, comme disait notre ami, comme s'il était dans un jeu vidéo. Voilà, comme un jeu vidéo et tout. Il appuie sur les boutons, il regarde et tout. Et en plus, il doit prendre une décision assez rapidement, parce que si maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Ben après, il va demander à ce qu'on repasse l'action une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. La montre tourne, on n'est pas en rugby, on n'est pas en basket. Je trouve ça apocalyptique. L'arbitre a sifflé pénalty, il s'est peut-être trompé, mais à siffler, c'est lui.
Donne-nous ton opinion aussi sur sa décision, parce que là, tu critiques en fait cet arbitrage assisté à la vidéo, mais il s'est trompé ou il s'est pas trompé ? Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre.
On n'a pas le droit de se poser la question. L'arbitre fait partie du jeu.
Toi, au-delà même de ce, il s'est trompé ou c'est pas trompé?
Mais moi, je suis
devant. Il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty, de ce que t'as vu?
Moi, je suis devant ma télé. Il y a la vitesse normale. Je vois pas bien. Je suis pas à 10 mètres de l'action. Et puis surtout, j'ai le ralenti.
T'as pas d'opinion sur ce qui s'est passé sur ce fait de jeu.
Je
peux en avoir une, mais la décision appartient à l'arbitre.
Moi, je pense que la décision de la vidéo confirme ce qu'ils ont vu dans le cas. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Le seul problème qu'on a aujourd'hui avec cette vidéo, c'est qu'on juge au ralenti une action qui est à vitesse réelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on regarde en tennis, il y a une balle qui arrive, on la ralentit 100 fois, on la zoome, on a l'impact et on est dans un système de Hawkeye. Au football, je pense qu'on peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que le ralenti, pour moi, amplifie ce qui se passe. C'est-à-dire que le tirage de maillot, lorsque vous le voyez au ralenti, c'est-à-dire que prenez juste l'exemple. Je sais pas, on est filmé, mais vous prenez l'exemple de ça en vitesse réelle. Je lâche au bout d'un centième de seconde. Vous le prenez au ralenti. Le moment où moi j'ai la main sur le t-shirt, ça dure une éternité. Ouais. Non, mais ça dure une éternité puisque c'est un ralenti. Donc forcément, comme mon acte est ralenti, vous avez l'impression que le maillot, je le tire pendant 10 secondes. Sauf que c'est pas le cas. C'est le seul problème que je trouve à cette vidéo. Après, la décision qui est prise par le CAR et par les arbitres dans le CAR, pour moi, est bonne. Il n'y a pas pénalty sur Neymar.
Habib, n'oublie pas, il n'y a pas que le ralenti. Il y a aussi plusieurs angles. Donc, tu as le ralenti devant, derrière, au-dessus, à côté. Vous avez mis le doigt, un mécanisme infernal. Mais vous verrez. Ça commence déjà avec les joueurs.
On y reviendra à l'arbitrage vidéo, évidemment, tout au long de cette compétition, parce que les situations alimentent le débat. Tout de suite, un petit arrêt, un petit stop, Suisse.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La Nati et la Serbie ont pris la direction de Kaliningrad pour un nouveau match donc de cette Coupe du Monde dans l'enclave russe entre Pologne et Lituanie. Une rencontre qui semble déséquilibrée, 35e au niveau de la FIFA d'un côté, c'est la Serbie, 6e pour ce qui est de la Suisse. Elle a des supporters, la Suisse, qui la suivent donc avec cloche et déguisement de vache. Mais il y a au pays un athlète hors compétition, quelqu'un d'extraordinaire en Suisse, qui n'est pas le plus jeune et pourtant il est premier au top mondial des tennisman, c'est Roger Federer. Écoutons ce qu'il pense de son équipe nationale.
En tant que supporter suisse, j'étais ravi de ce nul obtenu face au Brésil. J'avais un bon pressentiment pour l'équipe avant le début de la Coupe du Monde. Mais juste avant la rencontre, j'étais très nerveux et je pensais que nous allions perdre face au Brésil. Donc, j'ai été agréablement surpris puisque nous avons réussi à arracher le nul. Mais attention, rien n'est fait, nous n'avons rien gagné. Des matchs difficiles sont à venir. Nous allons affronter la Serbie et le Costa Rica. J'espère que nous jouerons aussi bien. Mais ces matchs seront différents. Je pense qu'il faudra jouer plus et pas seulement réagir. Je ne suis pas un entraîneur ou un professionnel. Mais je pense qu'il faudra avoir une autre tactique. Bon, maintenant, c'est un début parfait pour la Suisse.
Les conseils du grand frère Franck Simon pour cette Nati, cette équipe qui effectivement était plutôt solide dans ce premier match, là, se retrouve face à la Serbie et face à une équipe où l'ex-Yougoslavie plane un peu au-dessus de tout le monde.
Ouais, une équipe qui s'est imposée sur un coup de pied arrêté en plus, hein, la Serbie, si mon souvenir est bon.
Ouais.
Kolarov,
beaucoup franc.
Voilà une équipe qui est invaincue depuis quelques mois, je crois aussi depuis le mois de mars. Une équipe solide. J'ai pas trouvé une équipe non plus géniale dans son expression offensive, quoi.
Ça veut dire que la Suisse peut poursuivre son chemin plus sereinement.
Bah ils ont, je pense qu'ils le match contre le Brésil leur a certainement servi à se rassurer défensivement, à voir que collectivement ils étaient aussi capables de prendre de vitesse par instant les Brésiliens. Peut-être qu'il faut se servir de ça. Je pense qu'ils vont forcément servir de ces éléments-là pour aller mettre le bazar dans la surface adverse. Mais il faudra être un petit peu plus présent dans la surface de réparation, pas seulement sur les coups de pied arrêtés.
Habib, la Suisse.
Ça me transporte pas plus que ça. Je trouve que ils reviennent face au Brésil parce que le Brésil a laissé aussi la Suisse revenir dans ce match. Les Brésiliens ont été un petit peu suffisants sur cette seconde période. Après, je trouve qu'il manque d'un attaquant capable de faire la différence. Seferovic, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
Peut-être
en
Mbolo.
Europe. Peut-être. Oui, Mbolo. Oui, peut-être. Ça peut être une option. Maintenant, je pense que ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire ne pas perdre déjà contre les Brésiliens. Donc, ils se donnent une option. Après, le souci, c'est qu'ils jouent une équipe qui a déjà pris 3 points. Donc, dans la gestion, c'est différent pour la Serbie et pour la Suisse. C'est-à-dire que la Serbie peut se permettre aujourd'hui de faire match nul. Alors, pas forcément calculé, mais on sait que c'est dans l'aspect et dans l'approche d'un match différent dans une Coupe du Monde.
La Serbie, c'est la Serbie de Kolarov pour vous, Chérif?
Non, il n'y a pas Kolarov, il y a aussi Matic, Ivanovic, il y a quand même des tollés dans cette équipe. Moi, personnellement, je vois un match assez équilibré. Quelle équipe est au-dessus, je pense que les deux équipes ont des qualités, mais elles sont limitées. Au niveau des qualifications, bon, ça a été facile pour la Serbie. Ils sont qualifiés directement, mais avec le moins grand nombre de points. Et la Suisse n'a pas démérité, parce qu'ils ont perdu qu'une seule fois contre le Portugal. Ils sont passés par les barrages, mais ils sont... Moi, je vois un match assez équilibré. Je vois pas, a priori, de favori naturel dans ce match-là.
Alors, de quoi rendre encore nerveux Roger Federer, qui regardera le match tout à l'heure. Donc, ça sera en début de soirée entre la Serbie et la Suisse. Avant de rejoindre nos camarades qui sont en Russie pour commenter Nigeria-Islande, un petit détour avec Habib Bey. C'est long. l'ambiance. Alors là, c'est l'ambiance des supporters, de tous ces supporters sénégalais qui suivent l'équipe des Lions de la Teranga. Habib, là, c'était dans les rues de Moscou, dans le coin du camp de base. Et par ailleurs, ce qu'on entendait taper des mains, et ben c'est
à l'entraînement.
Voilà, oui. Les Lions à l'entraînement.
Ils font comme nous, comme à l'époque. On fait des échauffements où on danse, où on tape des mains, où il y a beaucoup de joie et de bonne humeur. J'ai trouvé justement que ça correspondait à ce qu'on avait vu sur le terrain. Ouais. Les Sénégalais appliqués, relâchés, voilà. Très confiants, très sereins. J'ai été justement à l'hôtel des Sénégalais voir Omar Daf et Lamine Diatta la veille du match. Et Omar m'a dit, je les sens très très bien, un peu comme nous à l'époque. Ils sont bien les gamins, ils sont confiants. Il y a des vraies certitudes. Je crois qu'Aliou Cissé a démontré à tout le monde, à tous ceux qui avaient des doutes, que sur le plan tactique, il était bien bien préparé. J'ai rarement vu une équipe mettre à défaut une autre équipe sur le plan tactique comme ils l'ont fait, vraiment. Même si la Pologne n'est pas une immense équipe européenne, mais j'ai pas vu Lewandowski.
C'est net, 2-0.
J'ai pas
net,
vu Milik. Tous les joueurs du côté de la Pologne ont été en difficulté, les milieux de terrain également. Ça a été appliqué et je trouve qu'ils ont pris énormément de confiance pour ce deuxième match face au Japon.
Franck, vous aussi, vous avez vu un Sénégal appliqué. Ils vont jouer.
J'ai vu à vos côtés, Annie.
Ils vont jouer, oui. Bien sûr. Mais ils vont jouer le Japon, bon, Japon au cours du week-end. Hein, c'est, si je me trompe pas, c'est demain.
Oui, c'est dimanche.
Ou c'est dimanche.
Dimanche,
hein.
Dimanche, oui, c'est ça.
Dimanche, effectivement, ouais. À 17h. Japon, Sénégal. Il vous a rassuré ce Sénégal par rapport à une équipe.
Plus que ça. Plus que rassuré.
Ouais.
Plus que rassuré parce que les matchs de préparation m'avaient franchement pas enthousiasmé. Il y avait des joueurs qui m'avaient beaucoup plu, notamment le Alfred Ndiaye qui a été titularisé et voilà, et Aliou Cissé a été aussi payé de ces choix-là dans l'entrejeu où c'était très important d'être présent. Ce garçon l'a été. Il a quand même été préféré à Kouyaté, ce qui est pas rien, cher Kouyaté.
Qui était le capitaine.
Qui est entré dans les toutes dernières minutes. Et oui, c'est un Sénégal qui nous a plu, qui nous a séduit. Mbaye Niang qui met son premier but en équipe nationale. C'est son premier but. Mm-hmm. Et qui fait un match de dingue. Homme du match. Radim Diam dans le but. J'ai lu 50 000 trucs sur Radim Diam, qu'il avait pas le niveau, tout ça. Moi-même, j'avais des doutes entre les éliminatoires et le début de ce tournoi final. Il a été titularisé. Tout le monde disait non, ça va être Diallo. Et voyez aujourd'hui, c'est payant, ça a marché, et on se demande maintenant qui va venir les titiller. Moi, le Japon m'a pas inquiété tant que ça. Je pense qu'ils peuvent aller, là encore, aller chercher les points.
Habib, ce Sénégal, quand on a vu les équipes africaines, et notamment, par exemple, la déception de l'équipe marocaine, hein, on imaginait que ce match, elle aurait pu le gagner d'entrée. On se dit, peut-être qu'on a vu le Maroc trop beau. Est-ce que, par exemple, le Sénégal, par contre, on voit une équipe finalement peut-être meilleure que celle qu'on attend?
Mais on les a vus surtout tactiquement très très bons, et ce qu'on n'a pas vu des autres équipes africaines, je trouve qu'il n'y a que l'Égypte qui avait montré dans sa structure, avec Cooper qui joue comme ça, très défensif, sans Mohamed Salah, qui avait pour moi respecté ce qu'on voit de l'Égypte depuis maintenant des mois et des mois.
Depuis trois ans.
Ah, la Tunisie m'a déçu en termes d'organisation, le Maroc m'a déçu en termes d'organisation, et Nigeria également. Je trouve que ce qui a été la force du Sénégal, et c'est aussi incarné par le match de Sadio Mané, on attend de Sadio Mané qu'il fasse des flamboyances, qu'il dribble toute une équipe, moi je l'ai trouvé très appliqué et aussi service du collectif, c'est-à-dire que Sadio s'est sacrifié dans son football à lui pour justement que ce Sénégal soit efficace. Il a défendu sur le côté, des fois c'est Mbaye Niang quand il était un petit peu fatigué qui a compensé, lui est rentré à l'intérieur. Je l'ai trouvé déjà investi, un vrai leader pour une équipe puisqu'il était capitaine, et ça montre un petit peu l'application qu'ils ont eu justement à respecter le plan qu'a mis en place Aliou Cissé, et c'était ça défini depuis bien longtemps. Il l'avait vu à la vidéo avec les Polonais. Les Polonais avaient beaucoup de difficultés à relancer derrière, donc il fallait bloquer justement Krychowiak et Zielinski. Ils l'ont très bien fait. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a vu des joueurs comme Mbaye Niang se révéler. Il a été très très bon et un vrai aspect collectif.
La charnière a été,
voilà,
a été
Saïf Sané a été bon aux côtés de Koulibaly. Radim Diaye, c'est un petit peu l'histoire de Copa Barry. Lorsque la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN, tout le monde voyait Copa Barry comme un gardien très moyen. C'est lui qui les a qualifiés, c'est lui qui les a fait gagner au tir au but. Moi, je trouve que c'est des belles histoires. Ouais. Espérons que celle du Sénégal continue, puisque moi je.
Et les
je
latéraux, le souhaite, tu parles pas des latéraux. Non, mais. Eh, ils ont fait le travail.
Wagé et Sabali, ils ont fait le travail. Mais je pense que c'est un vrai aspect collectif qu'il faut ressortir
voilà,
de ce match.
Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette équipe du Sénégal, c'était l'une des rares équipes africaines dans lesquelles je croyais, c'est le côté un peu ghanéen. Hein, c'est-à-dire le sérieux, l'application, la discipline. C'est-à-dire la flamboyance, la puissance, le génie, l'inspiration. Ça, on connaît, le football africain. Mais il y a toujours une ligne directrice, qui, à mon avis, est incarné généralement par le Ghana. C'est-à-dire une identité de jeu, une discipline et un sens du collectif assez aigu. J'ai retrouvé ça avec cette équipe du Sénégal. Très peu de fautes. Très peu de fautes.
Peu de fautes, oui.
Beaucoup de sérénité. On a oublié de dire, mais ça, en face, c'est la Pologne. C'est pour moi le plus gros coup depuis...
Et Lewandowski qui voilà, peut être dangereux à tout instant.
Ils ont à peine existé.
Il est plus ces derniers temps.
Ils ont à peine existé. Donc, chapeau pour le Sénégal.
Un petit mot encore, Franck ?
Je trouve que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à son sélectionneur. De ce qu'il était sur le terrain. Voilà. Ça lui ressemble vraiment. Il a su leur donner ça. Bon, bien sûr, il est pas tout seul, hein. Il a un gros encadrement technique.
Hein.
Mais voilà, ça lui ressemble. C'est très discipliné, très rigoureux.
Mais attention, le Japon, ça va être différent. C'est un football qui est complètement différent, avec beaucoup plus de mouvements, où il faut être encore plus appliqué.
Ça pique pas autant offensivement, ça percute pas offensivement.
Peut-être.
Comme la Pologne.
Un petit exercice.
Votre pronostic?
Et l'autre?
Je suis pas un devin! Je suis un malin! C'est tout!
Nous sommes d'accord.
Vous êtes malin, Habib, dites-nous. Allez, un petit pronostic sur ce Japon-Sénégal de dimanche.
Sénégal, 1-0.
1-0?
Ouais.
Ouais. Franck? 2-0.
Pour le Sénégal, bien sûr.
Victoire du Sénégal, 1-0, 2-0, peu importe. Victoire du Sénégal, je sais pas.
Et une qualification.
Et
ça voudrait dire qu'ils resteraient invaincus jusqu'à présent dans les phases de poule.
Je vous une parenthèse. Quand je parle de l'audace et de l'ambition que je reprochais tout à l'heure au Costa Rica, qui à mon avis, voilà, le Japon, ils jouent contre la Colombie, ils partent outsider. Voilà, ils gagnent le match parce qu'ils tentent des choses.
Mais il y a un fait de jeu aussi.
Ça joue à 10 en face.
T'y vas quand même, t'y vas. Il y a un moment, les mecs, ils vont pour planter le deuxième but.
Eh bien, on verra ça ce week-end et on en reparlera évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, direction la Russie. Nigeria, Islande, les Super Eagles contre les hommes venus du froid, hein, pour étonner une fois encore après l'Euro 2016, les voilà à la Coupe du Monde 2018, les joueurs de l'Islande. Et ils ont bien commencé en arrachant ce nul aux Argentins, alors que les Nigérians ont déçu dans leur premier match face à une bonne Croatie. Suivons la Volga tout de suite, on arrive à Volgograd avec Hugo Moissonnier et Christophe Jousset. Bonjour messieurs.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Quel beau cœur. Alors messieurs, vous êtes dans ce stade pour commenter cette rencontre de cette équipe africaine, le Nigeria contre l'Islande. J'imagine que vous avez déjà les compos.
On a déjà les compositions d'équipe, tout à fait. On peut pas reprocher Annie à Gernot Rohr d'être têtu. Pourquoi ? Parce qu'il a effectué des changements par rapport au match face à la Croatie. Un match qui avait tant déçu aussi bien les observateurs que les supporters et également donc cet entraîneur, ce sélectionneur Gernot Rohr. Trois changements. Les sorties de Igalo, l'avant-centre, d'Iwobi, l'ailier d'Arsenal, et de Chéou, le latéral, remplacé, Christophe, par Iheanacho, qui fait son retour en tant que titulaire au sein des Super Eagles, remplacé également par Ahmed Moussa, et oui, Ahmed Moussa, le champion d'Afrique 2013, le mondialiste 2014, et puis en défense, la rentrée de Kenneth Omeruo. Mais il n'y a pas qu'un changement d'homme, Christophe, il y a également un changement de système de jeu pour Gernot Rohr.
A priori, on s'oriente vers une défense à 3 avec Omeruo, Trostekong et Balogun, et un milieu donc à 5 où Moses et Aidowu devraient jouer le rôle de piston sur les côtés de part et d'autre. Moses, c'est le rôle auquel il est cantonné depuis maintenant plus d'une saison. Hein.
2 ans à Chelsea, c'est là qu'il s'est réinventé, Victor Moses, et ça c'est peut-être la grande information de cette composition d'équipe. Victor Moses retrouve le rôle que lui avait confié à l'automne 2016 Antonio Conte à Chelsea. C'est un ailier à la base, Victor Moses, c'est comme ça qu'aimait l'utiliser ces deux dernières années Gernot Rohr, et finalement il va retrouver donc ce rôle de piston, défenseur droit quand l'équipe défend, et ailier, en tout cas joueur à l'apport offensif certain lorsque l'équipe attaque.
On va entendre justement le sélectionneur que vous avez rencontré et que vous avez écouté surtout hier en conférence de presse d'avant-match, Hugo Moissonnier. Gernot Rohr évoquait son groupe.
Nous sommes unis, nous travaillons en équipe et nous vivons comme une famille. Vous ne pouvez pas toujours gagner et les joueurs ont fait un bon match contre la Croatie. 47% de possession de balle, 14 tirs contre seulement 12 pour eux. Nous étions bien organisés. Nous avons perdu, mais pas à cause de la tactique. Nous avons pris 2 buts stupides, un but contre notre camp et un pénalty. Je pense que nous méritions le match nul. Dans cette Coupe du Monde, les buts sont souvent des cadeaux faits à l'adversaire. Des pénaltys, des corners. Sur ces phases de jeu, les Africains ont besoin de travailler et mon équipe doit s'améliorer.
Voilà, cette équipe qui doit s'améliorer. Habib Bey, un petit mot sur la composition, le changement tactique et le changement d'homme de Gernot Rohr?
Oui, s'il s'avère que ça joue à 3, on peut comprendre le choix de Gernot Rohr. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on regarde cette équipe d'Islande, elle a mis en difficulté l'Argentine sur ses longs ballons sur Finn Bogason, qui lui remisait, et tous ses seconds ballons étaient gagnés au milieu de terrain par les Islandais, surtout avec Sigurdsson, qui est un très très bon joueur, on le connaît, Gylfi Sigurdsson. Donc il veut densifier un petit peu ce milieu avec les joueurs excentrés qui vont lui rentrer un petit peu à l'intérieur. Et puis sachant qu'il n'y a pas forcément une force de frappe offensive devant du côté de l'Islande, il n'y a pas besoin de monopoliser 4 joueurs. On verra si c'est l'animation qu'il a choisi. Maintenant c'est surtout dans le mouvement des joueurs et dans la détermination, parce que j'ai été déçu, moi, pas forcément par le talent des Nigérians, j'ai été déçu par l'implication collectivement de cette équipe. Après j'aurais aimé voir Iwobi et Iheanacho ensemble. Là il fait le choix de sortir Iwobi et de faire rentrer Iheanacho, mais c'est un choix, on verra si c'est payant. Moi j'ai vu un petit peu, je vois le Nigeria battre l'Islande, je vois une réaction des Super Eagles, et puis ça permettra aussi de voir un immense match lors de la troisième journée entre l'Argentine et le Nigeria. Non mais parce que je pense que l'Argentine n'est pas si mort que ça, tout le monde veut voir l'Argentine morte.
Je suis d'accord avec toi,
Je crois encore,
si l'Argentine si l'Argentine passe les poules, attention, mais j'aimerais pas les prendre.
Franck, un mot sur cette composition avant qu'on retourne à Kaliningrad. À Volgograd, pardon.
Elle est ambitieuse, elle est intelligente, c'est bien pensé, ça a été bien expliqué par Habib. Après, c'est une équipe nigériane qui est pas du tout dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui concède beaucoup plus de buts qu'elle n'en marque depuis le début de l'année. Ils ont juste battu la Pologne, eux, comme le Sénégal. Bon, sauf que le Sénégal c'était en phase finale de Coupe du Monde. Et moi, je crois pas du tout à ces Super Eagles. J'y crois plus depuis le début de l'année. Je les sens pas du tout. Ça manque d'envie, mais pas seulement. Le talent, tu disais le talent, mais moi, j'ai pas vu de talent.
J'ai pas été impressionné par leur match amical.
Rien, quoi.
Christophe Jossé.
Surprenez-nous, les Sapa Eagles. Surprenez-nous.
Christophe Jossé, Hugo Moissonnier à Volgograd, au bord de la Volga.
Oui, à Volgograd, où les équipes s'apprêtent à faire leur apparition. Les drapeaux des deux pays, celui du Nigeria à notre gauche et celui de l'Islande à notre droite, sont dévoilés par les volontaires de la FIFA. Hein. Tous ces jeunes gens mobilisés pour aider au bon déroulé de l'événement. Les deux équipes sont dans le couloir, prêtes à entrer sur la pelouse de cette Volgograd Arena. Christophe Jousset, petite indication météo, c'est important, la météo, il fait très chaud à Volgograd. Mais nous, on est à l'ombre grâce au toit circulaire de cette Volgograd Arena, 45 000 places environ, une sorte d'auréole au-dessus de ce magnifique stade qui nous permet d'être à l'ombre, nous, les joueurs également, et c'est une indication. La météo, elle a fait beaucoup parler, notamment lors des conférences de presse.
Oui, comme souvent quand il fait chaud et qu'on a une équipe africaine sur le terrain. Alors bon, je rigole parce que c'est vrai que d'ailleurs Gernot Rohr l'a dit en conférence de presse hier, il fait 32 degrés hein, ici à l'ombre, donc vous voyez que on est loin de la froidure de Yekaterinbourg, et je crois qu'à Saint-Pétersbourg il fait pas chaud non plus. Mais évidemment, quand on a une température africaine, on se dit tiens, un avantage pour l'équipe africaine. Mais sauf que la plupart des joueurs du Nigeria, en l'occurrence aujourd'hui, évoluent en Europe, donc ils ont pris un coup de chaud à mon avis en arrivant hier à Volgograd, l'ancienne Stalingrad, où il y a déjà eu un match que vous avez commenté d'ailleurs, Hugo, dans cette Volgograd Arena, et qui concernait déjà l'Afrique. La Tunisie, pour son entrée dans le tournoi, avait été battue par l'Angleterre sur le score de 2-1 sur cette même pelouse.
Deux buts encaissés suite à des corners, des coups de pied arrêtés. Gernot Rohr le disait, c'est le grand mal de l'Afrique lors de cette Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2018. Son équipe s'était inclinée face à la Croatie à Kaliningrad à la suite de deux coups de pied arrêtés, plus ou moins directement. C'est effectivement quelque chose que le sélectionneur voudrait voir, son équipe se soit améliorée sur ce point. Ça, on peut pas le vérifier avec la composition d'équipe. Ce qu'on sait, et j'y reviens, c'est qu'il a beau être heureux de la performance de ses joueurs face à la Croatie, il a fait des changements, il a changé de système, il a sanctionné des joueurs comme Iwobi ou Igalo qui avaient particulièrement été en difficulté. Enfin, on peut prendre ça comme une sanction. Et surtout, et ça on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure, il amène un peu d'expérience, en tout cas de l'expérience internationale. L'équipe, elle est jeune, elle manque de vécu. Il le dit à chaque conférence de presse, pratiquement, Gernot Rohr et Moussa et Omerouo,
deux entrants, donc dont son 11 de départ, ont l'expérience des grandes compétitions. Champion d'Afrique 2013, mondialiste en 2014, avait atteint les huitièmes de finale au Brésil.
Alors, on peut dire un mot d'ailleurs à propos, puisque vous parlez d'expérience, Hugo, de la grande expérience internationale des Islandais, parce qu'ils ont pour la plupart déjà 30 ans ou plus, alors que l'hymne du Nigeria vient d'être joué dans le stade. Vous entendez le public qui réagit, le sourire tranquille de Gernot Rohr, un peu ému quand même, hein, pour son deuxième match de Coupe du Monde. Cette Islande, effectivement, elle a beau jouer sa toute première Coupe du Monde, la toute première Coupe du Monde de son histoire, elle a l'expérience de ses joueurs pour elle. C'est un miracle, le miracle islandais, on le rappelle, petit pays, 340 000 habitants, 23 000 licenciés, pas de joueurs dans les grands clubs européens, mais des joueurs expérimentés à la fois en âge et en sélection, et que l'on voit venir, que l'on voit progresser depuis plusieurs années. Ils avaient failli d'ailleurs se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, alors que je signale juste à l'intention des personnes qui sont à Paris que l'on a un écho là pour le retour, et ce qui est assez compliqué pour parler tranquillement. Alors, cette équipe islandaise donc avait failli se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, elle avait échoué juste tout près du but en barrage contre la Croatie,
qu'ils retrouveront bientôt dans quelques jours,
qui est devenu son meilleur ennemi.
Exactement, il les retrouve systématiquement. Et puis, l'Islande a évidemment explosé à la face de l'Europe et du monde à l'occasion de l'Euro 2016. Vous avez tous en mémoire le quart de finale, la défaite contre l'équipe de France 5-2. Ça, c'était la fin du parcours. Mais avant ça, il y avait eu un huitième contre l'Angleterre, où les Islandais, qui sont très proches, hein, il y a beaucoup d'Islandais qui rêvent ou qui même jouent dans le championnat d'Angleterre. Eh bien, ils étaient face à leur pays préféré, si l'on peut dire, et ils avaient dominé l'Angleterre 2-1 en huitième de finale, et avant ça, un partout avec le Portugal, futur champion d'Europe au premier tour. Et l'hymne de l'Islande, vous l'entendez ?
On va pas pouvoir reprendre tout de suite, on a quelques frissons, énormément d'Islandais dans le stade, oui. C'est magnifique.
Oui, on imagine que la ferveur de tous ces supporters qui viennent de si loin pour encourager une équipe qu'ils avaient suivie déjà, et en nombre, on s'en souvient, en Europe. Un petit mot encore, messieurs, sur ce match, sur cette rencontre Nigeria-Islande.
Allez, le Nigeria. On aimerait bien voir les Super Eagles vraiment battre les Islandais, même si on aime beaucoup la philosophie des Islandais. Ils viennent de très très loin, il y a énormément de progrès dans ce football-là et il faut le saluer. Mais on a envie de voir les Nigériens à un meilleur niveau que ce qu'on a vu sur le premier match.
Oui, d'autant que le Nigeria, il y a quand même une habitude ou une tradition, Franck, en Coupe du Monde.
Oui, une tradition, mais en même temps des difficultés récurrentes. Ils nous ont pas, hormis ce match amical il y a quelques mois contre l'Argentine, franchement depuis ils ont plutôt déçu. Alors bien sûr Gernot Rohr cherche la bonne formule, bien sûr là il a rebattu les cartes, mais peut-être que ce match peut leur permettre de se remettre dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est de gagner avec un peu de manière. J'espère qu'ils vont pas tout mettre sur le plan athlétique, quoi. Qu'ils vont essayer
si
aussi.
Si ils ont regardé hier Luka Modric, il faut prendre exemple.
Mm-hmm. Ouais.
Par exemple.
Espérons qu'ils ont regardé.
Tu places la barre un peu haut, quand même.
Hugo Moissonnier et Christophe Jousset, on va vous laisser dans votre stade, vous préparer pour commenter ce match, et vous aurez pour relais tout à l'heure à Paris Cédric De Oliveira qui sera là pour vous aider, pour apporter ces petites informations. Et lui, à tout de suite sur les antennes africaines de RFI. Merci, messieurs. Radio Foot International, eh bien, en mode Coupe du Monde, c'est donc, vous le savez tous maintenant, deux émissions par jour. On se retrouvera en fin de journée à 23h10, heure de Paris, à 21h10 en temps universel. Et prenez-en l'habitude, on est aussi sur le Facebook Live de la radio, sur la page Facebook de RFI. Et vous pourrez nous regarder en plus de nous écouter. Une petite info, Rémi sera là. Alors quand Rémi est là...
Rémi Ngono officiel.
C'est la fête. Et il faudra qu'un jour aussi... Habib, vous soyez là.
Mais
avec
ça va
Rémi.
Pas parce que Ronaldo a mis 4 buts, Modric a marqué, ça fait beaucoup de Madrilènes qui marquent en ce moment pour Rémi.
Oui,
il a l'émotion qui est au maximum.
Il existe. L'autre jour, sur Cristiano Ronaldo, on ne l'arrêtait plus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir assuré cette émission avec moi de Radio Foot International. Merci à David Finzel, Pierre Guérin, qui travaille dans l'ombre pour cette émission. Il y avait aussi Guillaume Ploquin à la réalisation. Et on se dit donc à tout à l'heure. Pour ce qui est de nos auditeurs africains et ceux qui nous écoutent à travers Pure Radio, l'appli téléphone, c'est tout de suite le match.